Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur les 3-8 Radio Grenouille pour cette tchatch, une tchatch un petit peu particulière aujourd'hui, puisque nous aurons qu'un seul invité, c'est Michel Guéraud, et un seul sujet, c'est le ravi. Alors la presse va mal, on le dit, on le répète, la presse est en crise depuis de nombreuses années, on compte de plus en plus sur la générosité des lecteurs, la faiblesse des aides publiques et les revenus publicitaires y sont pour beaucoup. Aujourd'hui le ravi est en crise et donc on va en parler avec Michel Guéraud et juste avant on va quand même garder quelques traditions, celle du portrait de l'invité et c'est Sébastien Boistard qui s'en occupe.
Sébastien Boistel, c'est jamais Boistard, pourquoi pas. Michel, mon beau, ce sont des mots qui ne riment guère. Oh, oui, Michel Guéraud, révéré rédacteur en chef du Ravi, on a failli vous faire votre fête. On a failli vous décerner ce mois-ci le Ravi de Plâtre. Une infamie dont hérite d'ordinaire Godin, Joissin. Pourquoi tant de haine? Bon, on est sur Radio Grenouille, donc on n'est pas filmé. Les auditeurs n'ont donc jamais pu se rendre compte de vos tenues, qui jusqu'à peu n'avaient rien à envier au pyjama de Monsieur Spock. Ces derniers temps, vous avez fait quelques efforts. Votre figure longiligne de cathode gauche neurasthénique s'ornant de quelques cheveux gris, parfois d'une écharpe à la Christophe Barbier et d'une sombre sobriété toute sacerdotale, car les temps sont durs. Et rassurez-vous, on n'allait pas se faire les crocs sur Guéraud parce qu'il s'habille comme un journaliste gonzo. Non, on a failli vous faire votre fête, parce que pour nous, les soutiers du Ravi en ce moment, c'est un peu la nôtre tous les jours. Le Ravi est en cessation de paiement et devrait être, sauf surprise, en redressement judiciaire. S'il y a un Ravi dans la crèche, il sera une fois de plus en train de faire la gueule et la manche. Alors quoi de plus normal, Michel Guéraud, que les précaires cassent du sucre sur le dos du patriarche, celui qui est rentré au numéro 6 et qui coûte trop cher à virer. La variable d'ajustement, c'est nous, le capitaine du navire, c'est vous. A working class hero is something to be. Comment vous le reprochez ? Derrière vos faux airs de premier communion à qui on donnerait le bon Dieu sans concession, vous avez fait vos armes à un témoignage chrétien, vous avez transformé ce fanzine de sociologue en objet journalistique non identifié, le journal rigolo-chio, chiant. Et comme plus on est de fous, plus on rit, après l'avoir fait quasi tout seul, voilà qu'il y a 3 ans, vous décidez de doubler l'équipe. Peut-être craignez-vous d'être accusé de népotisme. Votre frère fait le site internet, votre compagne a joué les chroniqueuses et même vos enfants vendent encore le Ravi en manif. Mais au fond, dans cette aventure collective, cette sociocratie qu'elle ravit, vous continuez à faire beaucoup de choses tout seul. Trop peut-être. Comme cette émission où, schizophrène, vous avez même été jusqu'à envisager de la faire, de faire à la fois les questions et les réponses. I am as you are he, as you are me, and we are all together. Rédacteur en chef du Ravi, coordinateur de la chat, VRP multitâche, en permanence à deux doigts du burn-out, sans toutefois un mot plus haut que l'autre, on en oublierait presque qu'avant d'être des ciseaux, vous êtes une plume. En fait, Michel Guéraud, ce que l'on peut vous reprocher, c'est de ne pas avoir été un vrai patron de presse. Un de ces salauds qui maltraite les pigistes et la réalité au prisme de ses envies et de ses préjugés. Incapable de lire un tableau Excel, comment auriez-vous pu faire le calcul cynique de remplacer 3 précaires en contrat aidé par 3 autres précaires en contrat d'avenir? Vous avez fait le pari de grossir pour grandir, mais le Ravi, loin d'être un colosse, est un nain au talon d'argile. Le conseil général nous coupe l'herbe sous le pied. La région nous fait trébucher et nous voilà à terre. On s'est cassé la gueule, mais on fait le pari de se relever. Allez Michel Guéraud, on va y arriver. Ça fera la rue Michel, comme le veut l'expression consacrée. Comme disaient les Beatles, que j'aime, comme tous les gentils garçons à l'air un peu trop propre sur eux massacrés, on va y arriver, with a little help for my friend.
Alors Michel Guéraud, Poutine, même combat?
Voilà, bon ben... Émission de schizophrène, hein, d'habitude je suis à vos côtés, à monsieur Rafi Hamal pour poser des questions, et là la position s'inverse, mais c'est parce que la situation l'exige peut-être.
Alors depuis quelque temps, on l'a dit en introduction, redressement judiciaire, c'est la phrase qui est à la mode. Le 25 novembre, c'était au tour de l'association La Tchatch qui édite depuis 11 ans notre mensuel satirique Le Ravi. Le procureur s'est prononcé pour une mise en redressement judiciaire avec la nomination d'un administrateur. Ça veut dire quoi concrètement, Michel Guéraud?
Alors effectivement, quand on a annoncé qu'on déposait le bilan, et moi-même j'étais pas spécialement forcément au fait de la subtilité du vocabulaire juridique, on pense que c'est la fin, que c'est terminé. En fait, c'est le terme juridique qui correspond à la déclaration officielle d'une situation de cessation de paiement. Cessation de paiement, ça veut dire qu'on n'est plus capable de verser les salaires. On n'est même plus capable de procéder à un plan social, c'est-à-dire de licencier, même si on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement, parce que licencier, ça nécessite de licencier les gens. Donc, il y a des indemnités de départ, etc. Donc, il y a une situation de bouclage. Et puis, les fournisseurs, par exemple, l'imprimeur, s'il reste une facture, on ne peut pas la payer. Donc, on va devant un tribunal. Et le tribunal, il y a deux routes possibles. Soit il prononce la liquidation, parce qu'il estime que cette structure n'a pas d'avenir. D'un point de vue, alors eux, ce qu'ils regardent, c'est surtout l'emploi et puis la rentabilité de la structure. Soit ils estiment qu'il y a possibilité d'aller à un redressement. Et là, c'est une période d'observation, une première période d'observation qui s'ouvre sur 6 mois avec des contraintes diverses et variées, assez lourdes toutefois, mais qui permet de poursuivre l'activité. Et effectivement, on enregistre cette émission en différé, mais ce vendredi, en milieu de journée, on devrait avoir confirmation, on l'espère en tout cas, de cet avis qui a été déjà donné, c'est-à-dire de nous autoriser à continuer à essayer de lever les bras.
Alors c'est le tribunal de commerce qui va décider, comme on l'a dit tout à l'heure, l'émission est enregistrée, mais c'est quasiment acquis à 80%, une espèce de gestion, donc...
Oui, voilà. Enfin, alors bon, moi, je suis pas juriste. D'après ce que je comprends, oui. Enfin, ça serait bizarre que ce tribunal revienne sur le point de vue du juge et du procureur. Effectivement, ensuite, voilà, il y a une technicité non plus que je ne maîtrise pas. Moi, je suis, comme le disait Sébastien tout à l'heure dans son portrait, tout en étant rédacteur en chef, en étant aussi le coordinateur de cet asso, je ne suis pas l'employeur. Hein, donc, c'est une association qui édite leur avis, donc avec un président, un bureau des bénévoles. Et effectivement, cette structure va être prise en main d'un point de vue comptable. Hein, c'est-à-dire que maintenant, pour faire un chèque, il faudra demander l'avis à un administrateur. Et puis surtout, il va y avoir un compte ouvert et il faudra payer à l'heure les salariés. C'est-à-dire qu'il y a un risque là qui s'ouvre. C'est la situation que connaît aussi notre titre, on en parlera sans doute après, la Marseillaise en ce moment. Ça veut dire que tous les mois, il faut effectivement être en capacité de payer les salariés, en capacité de réunir l'argent nécessaire à sortir un journal, à faire vivre une équipe pour poursuivre.
Alors leur avis, avant d'en arriver à cette situation, qui est plutôt périlleuse, quoi qu'on en dise, leur avis c'est 11 ans, une expérience d'11 ans qui a démarré, comme le disait Sébastien tout à l'heure, d'un fanzine pour sociologue, un vrai journal avec des vrais journalistes et des vraies enquêtes. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là? Parce que leur avis, on va d'abord donner quelques chiffres, leur avis c'est combien d'exemplaires?
Alors leur avis c'est un tirage à peu près de 5000 exemplaires et on va y revenir hein, je pense, mais c'est effectivement en termes de vente, c'est seulement au maximum 2000 exemplaires vendus par mois, ce qui peut paraître peu, et ça l'est certainement, peu, c'est aussi, alors il faut mettre en rapport aussitôt ces chiffres avec d'autres chiffres, parce que par exemple en ce moment 50 000 visiteurs uniques différents par mois sur un site où les contenus sont gratuits, et puis puisqu'on parle de chiffres, alors allons-y, ce chiffre est à la fois petit.
En termes d'abonnés, on peut dire, il y a combien, 800
abonnés? Il y a 800 abonnés à peu près, hein, donc sur les 2000 dont on parlait. Là, ce que je suis en train de faire est quand même un exercice très très rare dans le milieu, dans notre profession et dans celui de la presse.
C'est de dévoiler les vrais chiffres.
On donne les vrais chiffres et c'est à la fois peut-être une faiblesse, mais c'est aussi, je pense, et on va le voir, c'est le pari qu'on fait, en tout cas dans la période qui s'ouvre, c'est aussi une force. C'est-à-dire que les confrères, j'espère par exemple que la Marseillaise va se redresser, je pense qu'il est utile que ce journal poursuive. Il y a de l'emploi et puis il y a une forme de diversité, enfin ça permet le pluralisme. Mais par exemple, la Marseillaise actuellement, et j'espère que ça va venir, mais ne donne pas les chiffres de ces chiffres. Il y a beaucoup de secrets autour de ça. La Marseillaise, la Provence, enfin tout, et d'autres journaux ne le font pas. Ou quand ils le font, ils appliquent aussi, et c'est pas complètement idiot, un coefficient multiplicateur. Par exemple, pour un mensuel, on parle de prise en main. Et pour 2000 exemplaires du Ravi vendu, on considère qu'à minima, il faut compter au moins 3 prises en main. Donc on multiplie déjà par 3. Donc, vous voyez, il faut relativiser. Donc, ce que nous, on estime, mais sans en avoir fait une étude très précise, parce qu'on n'en a pas les moyens, c'est que ce journal est acheté, grosso modo, sur une année, intéresse et peut être acheté et est acheté par 10 000 personnes à peu près, mais de façon très, très irrégulière.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les ventes ne couvrent plus le coût de fabrication.
Non, tout à fait. Et elles ne l'ont jamais tout à fait couvert. Car une des raisons, on parle d'économie, j'espère qu'on parlera aussi de ce qu'on fait, de la ligne éditoriale et de pourquoi on est là. et de ce qui fait que ce journal a envie de continuer et que les gens nous disent qu'il faut qu'il continue. Donc, j'étais en train de dire que j'ai perdu le fil.
On disait que le coût de fabrication oui. en fait, du journal n'était oui, pas remboursé par les ventes.
Une des raisons de notre durée, hein, 11 ans, fait de nous aujourd'hui un des journaux, là, pas pareil, alternatif, indépendant, enfin, on parlera de tout ça, un des plus anciens de France. Ce qui nous a fait durer tout ce temps, c'est un modèle mixte, celui d'une association, celui d'un projet qui s'inscrit, alors là on rentre dans des termes un peu techniques, mais dans l'économie sociale et solidaire, et qui est mixte dans ses ressources, plusieurs activités et plusieurs ressources, en particulier donc les ventes. On est vraiment effectivement sur un champ concurrentiel, on vend des journaux, et ça c'est le noyau dur, et c'est ça qu'il faut travailler en priorité. Et c'est aussi une association qui s'est déployée depuis pas mal d'années en action éducative. On intervient dans des collèges, dans des lycées, et aussi en action, en projet d'éducation populaire, où là on peut intervenir pas auprès des scolaires, mais sur des publics. On a eu fait un travail d'atelier, d'écriture avec des sans-domicile par exemple, mais on va aussi dans les centres sociaux, et là on pratique... Tout ça est intégré, ça revient dans le journal, et c'est aussi une forme de journalisme parce que ce sont les mêmes personnes qui font les articles, les enquêtes, et qui font ces actions d'éducation. Ça finit aussi par se traduire par des objets journalistiques avec les tirés à part, avec un journalisme participatif, un journalisme un peu différent aussi. C'est-à-dire qu'on revient sur quelques-unes de nos marottes, à savoir... ce désir, cette volonté de faire vivre une presse qui soit un peu plus horizontale, qui tombe un peu moins d'en haut. Quoi.
On parlera un peu des différents volets de l'association qui gère le Ravi, la Tchatch. Un mot pour en finir avec l'économie, pour bien faire comprendre à l'auditeur de quoi vit concrètement un journal. Alors on a vu, il y avait la vente des journaux, il y a la publicité que le Ravi n'a pas, il y a la publicité institutionnelle qui, elle, est acceptée, et il y a les aides, les subventions.
Alors, justement, on a des subventions dans ce cas d'un fonctionnement associatif. Et ces subventions, elles sont de différentes natures, mais pour l'essentiel, elles sont plus sur les actions, c'est-à-dire sur ces projets d'éducation populaire et ces actions éducatives. On en parlera peut-être plus spécifiquement, à un moment donné, et on a fait une demande qui n'est pas suivie cette année, une seule subvention qui venait du Conseil général des Bouches-du-Rhône sur le fonctionnement, sur l'objet journal directement, parce que cette institution-là a une ligne de soutien aux médias associatifs à laquelle ce journal a un temps été inscrite et qui aujourd'hui a été réduite à zéro.
Alors, Conseil général, une réduction de 90% des subventions, on peut dire ça ?
Oui, voilà. Alors, par exemple, si on prend cette ligne-là...
Pour 2014, hein.
En 2014, alors l'année n'est pas finie, mais en 2000, pour donner une échelle, en 2012, on avait 35 000 euros sur cette ligne-là du Conseil général des Bouches-du-Rhône. En 2013, c'était plus que 15. Et aujourd'hui, on a pour l'instant zéro. Et surtout, là on peut s'interroger, on n'a pas de réponse, c'est-à-dire que alors que le dossier, comme les années précédentes, a été enregistré, a reçu un numéro d'enregistrement par les services, celui de la vie associative, il n'a pas été présenté au vote, donc il n'a ni été approuvé, ni été rejeté. Et à ce jour, cette institution-là nous a rien dit, c'est-à-dire nous a pas dit il y a un problème, il y a un souci, on n'obtient pas de réponse. Pour vous dire, pour être très clair auprès des auditeurs, on a même à un moment donné envoyé une lettre recommandée à laquelle il n'y a pas de réponse. Et c'est par voie de presse, là, depuis qu'on a quelques difficultés, qu'une journaliste de 20 minutes a interrogé quelqu'un au CG qui dit que bon, il y a des arbitrages, c'est normal, et les priorités ont changé. Mais c'est une réponse très indirecte et très tardive.
On parlera aussi tout à l'heure de la ligne éditoriale qui peut éventuellement poser problème aux financiers. Le conseil régional également a baissé ses subventions ?
Oui, à ce jour. Et là, les discussions se poursuivent, semble-t-il. Depuis qu'on est en cessation de paiement, on nous a promis un rendez-vous, peut-être la semaine prochaine. Il y a des demandes qui ont été repoussées. On avait répondu à un appel à projet, parce qu'on fonctionne aussi comme ça, comme beaucoup d'associations, et comme les institutions nous amènent à le faire de plus en plus, on a répondu à un appel à projet qu'on espérait voir voter en octobre et qui maintenant peut-être le saurait en décembre. Mais à ce jour-là, c'est une des raisons, hein, mais pas la seule qui nous a conduit mis en difficulté. La baisse est de 44% par rapport à l'année dernière.
Alors leur avis, quand on parle de conseil régional, leur avis c'est un régional, c'est un des rares régionales même qui existe, distribué dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Hautes-Alpes.
Et les Alpes de Haute-Provence.
Les Alpes de Haute-Provence. Comment on explique que la région ne soit pas plus en avant sur le subventionnement du RAVI ?
Alors ça, c'est compliqué. Alors déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une baisse généralisée hein, à l'aide au milieu associatif. Toutes les institutions culturelles et finalement la presse est un peu considérée par ces institutions-là comme une institution culturelle, sont soumises à forte baisse. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que le conseil régional, et c'est pas le seul, ou ces institutions de ces collectivités locales, ont beaucoup de mal à penser la presse, pas pareil, la presse associative, la presse indépendante, comme un objet légitime. C'est-à-dire qu'on n'existe pas, on n'apparaît sur aucun radar des institutions. Et ça vaut aussi pour l'État. C'est-à-dire qu'en France, il y a des aides à la presse directes et très importantes, absurdes, totalement absurdes, qui bénéficient par exemple à des journaux comme Paris Match, comme les journaux de télévision.
Ce qu'on appelle les titres IPG, Info Politique Générale.
Parce qu'ils rentrent dans des grilles, parce que ce sont... Et là, on a affaire à des entreprises, des SARL qui appartiennent à des grands groupes, Dassault, Lagardère, Hachette, des groupes qui font de l'argent, beaucoup d'argent.
Tapie, maintenant, on en parlera peut-être.
Oui, alors Tapie, c'est pas un grand groupe, mais c'est un grand groupe à lui tout seul. Enfin, c'est un autre problème, là. On peut parler d'un affairiste, on peut en parler de ce personnage-là. Là, il y a de l'argent qui finalement, des contribuables se perdent un peu dans le vide ou même créent un souci démocratique parce que souvent ces groupes-là font des marchés, enfin répondent à des marchés de l'État, donc il y a des intérêts liés. Il n'y a pas d'aide à la presse comme la nôtre. Il existe, par exemple, en parallèle, des aides pour des radios. On est sur Radio Grenouille, qui sont identifiés comme des radios non commerciales et qui, sur critères, sont identifiés avec des missions, avec des cahiers des charges, avec l'autorisation de prendre un certain pourcentage de publicité, mais pas trop, qui sont aussi parfois en éducation, doivent recevoir des classes, etc. Dans les cahiers des charges, ils sont inscrits aussi comme nous dans un travail de proximité et, de ce fait, de façon inconditionnelle, reçoivent une aide de l'État, un fonds. Ce système-là n'existe pas en France et du coup, on se retrouve dans la nature. Alors, c'est vrai que dans les batailles qu'on mène pour notre indépendance, on a tiré des nouvelles lignes. Par exemple, il y a la Jeunesse et Sport, le ministère de Jeunesse et Sport qui a identifié notre projet là, de journalisme participatif et qui, cette année, nous a donné 8000 euros. Mais c'est des batailles, c'est des énergies folles.
C'est surtout des sommes qui restent quand même très, très,
très dérisoires. Hein. Pas dérisoires, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est ce qui fait l'économie, la petite économie de notre journal avec nos petits salaires et, ou pas salaires du tout, parce que ça, c'est les... il y a du bénévolat dans cet assaut.
J'allais en venir là. Toute cette crise amène à une chose, c'est que l'équipe du RAVI va être réduite de 5 à 3 personnes hein, à temps plein. Le journal va être allégé, Michel Guéraud ?
Oui, et alors, bon, c'est un schéma qu'on a en tête et qu'on va défendre. Je ne suis même pas sûr, enfin, ça va être une discussion et un rapport de force aussi avec notre administrateur. C'est-à-dire que nous, on lui propose un schéma et puis il approuvera ou pas. Il semble assez sensé, ce schéma. On pense pouvoir le défendre. C'est un peu différent. On était 7 salariés, 5,5 équivalents de temps plein. Donc, et on passerait à 2 salariés seulement et on garderait un troisième équivalent de temps plein en forme de pige, en forme de prestation finalement pour faire court extérieur, sans rapport de contrat direct. Mais effectivement, on ne va pas pouvoir à ce même effectif produire la même chose, même si je fais un petit retour en arrière rapide, même si ce journal n'aurait pas existé pendant 11 ans et n'existera pas les prochains mois, s'il n'y avait pas eu toutes ces forces militantes, bénévoles, qui ont fait que ça a été possible. Je ne parle même pas de la question de l'administration, de la diffusion, de la gestion de l'assaut qui est aux trois quarts bénévole. parce qu'on avait quand même à un moment donné embauché quelqu'un pour le secrétariat, la gestion des abonnements et tout ça. Mais par exemple, quand on a lancé, j'en prends qu'un, la nouvelle formule du journal il y a 3 ans, c'est une graphiste professionnelle pro qui a fait le travail. Et ça a été 0 €. Et ça, il y a des coûts cachés là, comme ça, partout. Si on les avait appliqués, on aurait tenu 3 mois. voilà, donc, par contre, je reviens à la question. Effectivement, là, on bataille et on va le faire. Il faut le faire. On va sortir en décembre un numéro complet en 24 pages pour mobiliser, hein, pour raconter ce qui nous arrive et ce qu'on projette dans le futur. Mais derrière, c'est clair. On va être amené à passer en mode de ravi de crise. Pour autant, ravi de crise, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Ça va être probablement un journal qui va être très réduit en pagination. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est réduire, nous, l'ambition éditoriale. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on n'est plus depuis très longtemps, autant qu'on ne l'ait jamais été, c'est-à-dire un fanzine. Peut-être les premiers numéros, quand même, y ressemblaient fortement, effectivement. Je veux bien en convenir. Donc, Pas de retour en arrière, mais par contre, oui, on va diminuer le volume, on va poursuivre nos actions à la fois parce qu'on a des engagements et parce que ça fait partie de l'équilibre et du modèle économique qu'on cherche à défendre, les actions d'éducation et les projets de journalisme participatif. Et pour nous, il s'agit de gagner un peu de temps pour profiter de cette période et se poser des questions. Nous, la petite rédaction du Ravi, les gens qui entourent cette rédaction et qui y contribuent, parce qu'un journal, même si on n'était que 7, dans un journal, pour faire un Ravi chaque mois, il y avait à minima une 30aine de personnes mobilisées sur un journal et beaucoup plus autour. Donc tout ce petit monde, et au-delà de ce petit monde, tous ces gens qui sont des lecteurs peu nombreux, on a parlé de 800 personnes, mais très régulier, alors là, ces abonnés, là, y a un lectorat volatile.
Il y a un noyau dur.
Mais il y a un noyau dur. Tous ces gens-là vont essayer de travailler, de se mobiliser et de faire venir à nous. On va dire à ces gens, je parlais de ces 10 000 personnes là, qui nous achètent ponctuellement, on va leur dire, mais si vous estimez qu'il y a besoin d'un journal pas pareil, régional, en PACA, si vous pensez que le pluralisme de la presse ne peut pas se réduire au seul nom de Bernard Tapie, le sauveur de Nice Matin, oui. Il faut nous envoyer un signe très fort, et c'est ce qui va se passer ou pas se passer dans les semaines qui arrivent.
Alors, justement, pour en finir avec les chiffres, la situation, clairement, administrateur judiciaire va être nommé. Pour combien de temps et quid après cette période ? Est-ce que l'administrateur judiciaire s'en va quand la situation est assainie ou est-ce qu'il reste ou est-ce que la situation reste un petit peu bancale ?
Alors sous réserve, parce que je découvre tout ça, pas en même temps que les auditeurs, mais pas loin. C'est une période qu'on appelle dite d'observation de 6 mois, renouvelable a priori une deuxième fois peut-être, si nécessaire, donc 1 an et je crois pas plus. Et ensuite, il y a 2 schémas, c'est-à-dire que soit on va, et d'ailleurs ça peut arriver même plus tôt, si on trébuche en liquidation, terminé, soit on peut aussi imaginer, et ça c'est un scénario qu'on va étudier très sérieusement en interne et avec les gens qui nous entourent, les partenaires aussi, qu'on ira peut-être chercher au-delà des frontières de la région, des partenaires. On a aussi des fondations qui nous ont suivis, on en parlera si vous voulez. On va essayer peut-être d'imaginer, et ça peut être une porte de sortie par le haut. D'autres l'ont fait, Nice Matin justement, la reprise du titre et de son équipe, de son projet, mais aussi de ses dettes, attention, sous forme par exemple d'une SCOP ou d'une SIC. La SIC, c'est un intermédiaire entre l'association et la coopérative.
Donc tout dépend de l'avenir et tout dépend surtout des lectures du Ravi. Une chose, le pluralisme des journaux, ça c'est une des singularités marseillaises avec différents titres. Vous considérez que cette singularité est en danger? Vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, il y a un vrai danger au fait qu'il n'y ait qu'un seul grand quotidien, la Provence?
C'est un véritable danger, on est déjà là-dedans parce qu'effectivement, alors on fait partie des rares régions de France où il y a encore un quotidien alternatif, régional au quotidien en monopole, en situation de monopole, ici la Provence, mais puisqu'on parle de la PACA, c'est aussi effectivement Var Matin, Nice Matin, et effectivement, alors les difficultés de la Marseillaise et les risques qui pèsent sur ce titre-là font peser une menace supplémentaire. La Marseillaise, déjà aussi, avait des difficultés hein, en l'état à exprimer une ligne éditoriale irrévérencieuse, comme on cherche à la faire vivre, c'est-à-dire une Marseillaise qui est très, 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 très liée au
Parti communiste, disons-le.
Au PC, effectivement. Alors, même si le PC n'est plus ce qu'il a été, mais il y a des liens qui existent et qui... à la limite, qui peuvent être assumées, mais elle est aussi très liée au financement, à la publicité institutionnelle. On pourra parler du rapport du Ravier, là, si vous voulez, à la publicité institutionnelle, mais nous, on a des dépendances à ça. Eux, ils ont des liens très structurels très et qui les freinent dans leur capacité à produire des enquêtes et des articles impertinents.
Alors, autre phénomène, de Nice à Marseille, un nouveau monopole de presse est en train de se constituer. Entre les mains d'une personne dont on a beaucoup parlé dans cette émission La Grande Chèche, c'est Bernard Tapie. Il détient 80% de la Provence. Nice Matin, société coopérative d'intérêt collectif, qui vient de se monter, mais avec l'appui de Bernard Tapie, et puis surtout, il tient aussi 100% de Corse Matin. Ça, c'est un vrai danger pour le pluralisme, pour la presse en général.
C'est un danger, et ça pose encore une fois la question des liens compliqués, incestueux, entre presse et politique et milieu économique. Et avec Tapie, on a le mélange des trois. On a affairiste, on a quelqu'un mis en examen, on a quelqu'un qui traîne des tas de casseroles. On a un homme d'affaires, effectivement, et là, je comprends. On ne peut que comprendre les salariés de Nice Matin qui essayent de sauver leur boutique. À la lecture de Nice Matin, quand même, on est un peu effrayé parce que c'est un des pires, quand même, canards régionaux avec du fait divers, les papiers, les éditos de Bouvard. Enfin, ça vole vraiment la Provence à côté, c'est l'encyclopédia universaliste.
On est un peu sévère, mais ce qu'il faut dire, c'est que les journalistes ne font qu'obéir à la ligne directrice.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer. Enfin, toute critique que je peux faire à l'antenne là, sur Nice Matin, La Provence, etc., il y a des journalistes qui auraient tout à m'apprendre dans chacune de ces rédactions. Hein. Attention, donc il faut être nuancé dans ce qu'on peut dire, mais toutefois, quand même, voilà, on comprend leur volonté de sauver le titre. L'idée d'une SIC, puisqu'on y pense nous-mêmes, elle est pertinente. Et puis, patatras, bon, évidemment, ils ont sauvé Nice Matin, c'est pas la même chose que sauver le Ravi. Ils sont obligés, pour arriver à ce montage-là, à aller chercher ce Bernard Tapie qui s'offre au passage. Il fait une excellente affaire. C'est-à-dire que si Nice Matin se casse la figure dans quelques temps, il s'est emparé de Corse Matin, qui est le seul journal rentable de la région.
Il y a aussi une affaire immobilière.
Une affaire immobilière.
Toutes les agences.
Il n'y a pas de souci. Donc là, il y a effectivement, enfin, c'est une mésaventure, l'arrivée de Bernard Tapie dans ce titre-là.
Alors, Michel Guéroux, avec la crise ou sans la crise, un des fondamentaux du Ravi, c'est l'enquête, le reportage et l'analyse. Durant 11 années, c'est un cap que vous avez essayé de tenir. Est-ce que ça va continuer ?
Oui, c'est la raison d'être. C'est-à-dire que si on se fatigue autant à s'attaquer au moulin à vent et à ramer à contre-courant, c'est parce qu'on a cette motivation. C'est-à-dire qu'on se paye sur cette satisfaction-là de faire notre métier comme on aime le faire, comme on voudrait voir plus de monde pouvoir le faire. Parce que ma conviction, c'est que la plupart des journalistes veulent travailler comme nous, on tente de le faire, mais sont coincés parce que les conditions économiques ou internes, leur rédaction ne leur permet pas de le faire. Donc c'est la raison d'être et il ne faut pas lâcher. Enfin, c'est ce qui nous... Si on ne veut pas non plus tenir ce projet sous perfusion plus que nécessaire. C'est-à-dire que voilà, on tente encore une fois de plus. Pourquoi on s'est acharné pendant toutes ces années, c'est qu'on a eu le sentiment, et on a eu des retours qui nous confortaient dans cette idée-là, d'avoir progressé. C'est-à-dire qu'on est parti effectivement sur quelque chose de très bricolé, à un journal qui a su déployer une ambition et la défendre, et incarner comme ça une voix qui reste utile.
La Grande Chèche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Chèche, le Ravi, et aujourd'hui justement on parle du Ravi avec ses difficultés financières. Le Ravi, c'est votre journal, si vous souhaitez qu'il vive, bah écoutez, manifestez-vous. On a parlé et on parlera tout à l'heure en détail de ce que peuvent faire les gens concrètement, hormis un chèque. Vous avez également besoin de bénévoles, vous avez besoin de participation, de matière grise. Revenons un petit peu à l'indépendance du Ravi. Ce rapport, forcément quand on pense journal indépendant, on pense rapport au pouvoir. et aux subventions, forcément. Donc, vous avez fait différents numéros sur le clientélisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les Bouches-du-Rhône en particulier. Est-ce que c'est pas ce que vous êtes en train de payer aujourd'hui avec une baisse de subvention de 90% de la part du Conseil général des Bouches-du-Rhône ?
Peut-être. Alors, comme je suis journaliste, en fait, j'ai un principe, c'est-à-dire d'éviter de colporter des rumeurs, de n'avancer que des propos vérifiés 2, 3, 4 fois. Comme je l'expliquais, je ne peux pas déclarer à cette antenne que Jean-Noël Guérini a décidé de couper le moindre euro à ce journal et à sa association parce que les articles lui déplaisent, parce que c'est pas dit, parce que c'est pas... Ce que je constate par contre, parce que je suis aussi journaliste, c'est que Jean-Noël Guérini, depuis qu'il est mis en examen, est très chatouilleux vis-à-vis de la presse et que tour à tour, ça a été le cas avec la Provence qui sortait des enquêtes très fouillées sur ses affaires, s'est vu supprimer des budgets très importants et que il semble effectivement qu'il y ait un effet de cause à effet entre la liberté de ton qui est la nôtre. Forcément, tous les mois, que ça soit en caricature, que ça soit en enquête, on est un journal régional, beaucoup diffusé dans les Bouches-du-Rhône. Jean-Noël Guérini est un personnage omniprésent et qui pratique effectivement dans ce département le clientélisme à haute échelle et à haute intensité. Il semblerait que... Donc on parle de ça et effectivement il y a quelque chose de très schizophrénique d'aller demander... À cette institution présidée par ce monsieur.
Mais après, ce choix, Michel Guéraud, ce choix qui a fait débat dans la rédaction, hein, je peux en témoigner, ce choix d'aller demander des subventions institutionnelles et finalement d'en dépendre en très très grande partie.
Alors, deux choses. Un, il faut faire quand même passer ce message très fort. Si on est en cessation de paiement, c'est pas d'un problème avec le Conseil général qui pourrait être lié à la personnalité de Jean-Noël Guérini. C'est une part, on est dépendant de ça parce que c'est une part du morceau de puzzle de notre financement. Mais c'est une série de choses. Tout à l'heure, Sébastien, dans le portrait qu'il a fait de moi, Sébastien qui est en CDD actuellement chez nous, et donc CDD qui ne sera pas renouvelé, mais qui souhaite, avec les autres, trouver toutes les solutions possibles pour continuer à travailler dans leur avis et à faire en sorte que ce journal continue. Je disais donc il n'y avait pas cette seule raison d'une institution qui serait le Conseil général. On a voulu aussi effectivement consolider l'emploi, c'est-à-dire qu'on avait, comme beaucoup d'associations, des contrats aidés. Contrairement à d'autres, on a préféré, et c'est une des raisons de la qualité de ce qu'on fait, c'est-à-dire plutôt que de jouer le turnover et de jouer sur la précarité des salariés, on a fait ce pari de garder les gens, et ça coûte plus cher, il y a plus de charges, etc., et qu'on n'arrive pas à assumer. Donc il y a cette raison. Après, est-ce que c'est contradictoire ? Alors, il ne faut pas confondre, par exemple, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et Jean-Noël Guérini, celui qui le préside. Le souci, c'est que mais c'est ça le souci, c'est-à-dire que cette institution-là, il y a une pratique du pouvoir personnel dans cette institution qui pose problème. Nous, on n'a pas déposé un dossier, on n'a pas demandé de l'argent à Jean-Noël Guérini, on a demandé de l'argent et on en demande encore, à ce jour, au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Le souci, c'est qu'évidemment, les choses, il y a une perméabilité entre les affaires judiciaires du président, les humeurs du président et la gestion technique et des dossiers. Donc là, il y a un souci. Après, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que le paradoxe, il semble-t-il y a un paradoxe à ce que la presse qui se réclame indépendante dise « on a besoin d'argent public ». Mais ce paradoxe, il n'est qu'apparent, en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'il faudrait conclure, et certains le pensent, par exemple, certains auditeurs connaissent le CQFD, qui est un journal édité à Marseille et national.
Que l'on salue au passage. Ouais.
Voilà, on les salue, on leur souhaite bien du courage pour la bataille qu'il a l'heure et qu'on partage, hein, de faire vivre un journal indépendant. Eux, leur choix, il est de refuser toute forme d'indépendance. Ils ont moins de salariés, ils payent moins les équipes, ils jouent le turnover plus souvent que nous, on a essayé de le faire. Ça pose aussi, ça a ses limites, ce modèle-là. Et Surtout, est-ce qu'on considère que le devoir d'informer et la liberté d'informer, qui sont des valeurs qui sont inscrites dans notre Constitution, doivent relever d'une logique purement financière, celle du marché? Peut-être qu'il faut, pour réfléchir à ça, décaler un peu le regard et dire, est-ce que la culture, par exemple, est-ce que, je ne sais pas moi, le réseau, les librairies indépendantes, le cinéma ARS, enfin toutes ces choses que dans ce pays on estime nécessaire de faire vivre, est-ce qu'on doit renvoyer tous ces gens-là sur le champ concurrentiel? Non, je ne crois pas. Et je pense que ça serait dangereux parce que tout à l'heure, on parlait des intérêts d'argent, de ces grands groupes qui sont en monopole et qui creusent et qui agrandissent leur monopole, qui sont des groupes liés à l'armement, au bâtiment, à la téléphonie, Free, le Monde, le grand journal de référence en France, indépendant, aujourd'hui dans les mains, en partie, d'un homme qui a fait fortune avec le Minitel Rose et qui possède Free.
Pour les auditeurs, même si un entrepreneur est de gauche, il ne trouve pas grâce à vos yeux. Hein.
C'est pas le problème qu'il trouve. C'est pas un problème de l'entrepreneur qui est forcément méchant. Le problème, c'est d'imaginer que la liberté de la presse et le pluralisme de la presse devraient relever uniquement du bon vouloir de ces gens-là. Ce serait certainement pas très prudent. Mmh. Voilà. Donc, il existe un service public de l'information qui a sa qualité, c'est les France Syntax, etc. On paye une redevance pour ça, mais là, pareillement, est-ce que la solution, ça serait un service unique de l'information dépendant uniquement de l'État?
Ça s'appelle la Pravda. Oui.
Ça s'appelle la Pravda, et là non plus, c'est pas un modèle. Il existe, entre ces deux extrêmes, un intermédiaire, et c'est celui, alors le terme est un peu barbare, un peu technique, et pas forcément très identifié, mais c'est tout ce secteur des associations, du secteur coopératif. C'est ce secteur qui est entre le secteur marchand et le secteur d'État. Et là, c'est dans cette famille-là, dans cet espace-là, que ce journal a su s'inventer, se creuser son petit sillon, tout fragile, et souhaite poursuivre.
Alors Michel Guéroux, à son firmament, on peut appeler ça comme ça, le Ravi avait 7 salariés, dont des journalistes, mais aucun commercial.
Effectivement. Et donc là, ça s'explique parce que c'est un projet qui a été porté surtout par des journalistes, puis ensuite venu en appoint et en soutien, et en identité graphique et en caractère, les dessinateurs. Mais on a aussi fait des erreurs, c'est-à-dire qu'il faut clairement, et c'est ce sur quoi aussi on va travailler pour se réinventer, on n'a peut-être pas assez suffisamment administré comme il aurait fallu. On a peut-être voulu trop développer la qualité éditoriale avant de conforter le modèle économique. Il faut qu'on y travaille, sachant toutefois qu'on ne vend pas un Ravi comme on vend un magazine de sport de glisse, et que c'est pas un commercial classique qu'il faut pour ce canard.
Un commercial militant.
C'est un militant, mais enfin, il faut beaucoup de rigueur. Déjà, de la rigueur, on en a beaucoup mis, hein, sinon on serait pas là encore et on s'en sortirait pas dans la période qui est la nôtre. Mais surtout, peut-être qu'on y travaille depuis 2 ans. Il faut aussi, entre ces titres-là, de la presse pas pareil, qu'on fédère, on est un peu tel de réseau, on a créé une association qui s'appelle Média Citoyen PACA, qui réunit des radios, des télés participatives, du web citoyen, et on connecte avec des réseaux au national, qui travaillent sur ce secteur-là. On a fait aussi une petite étude là, sur la PACA. Il faut mutualiser nos efforts. Il ne faut pas qu'on soit en concurrence les uns avec les autres.
On peut imaginer une régie pour la publicité.
On pourrait imaginer une régie. On a, ça faisait partie des idées qu'on a brassées. Là, on a fait une petite étude sur la presse, pas pareil, en PACA et un peu au-delà. Ça fait partie, oui, effectivement, des pistes. Aussi, on peut se mettre en visibilité. C'est-à-dire, quand il y a un numéro se vendre faire des abonnements couplés. On peut aussi mutualiser, peut-être aussi pour gérer, pour administrer nos petites structures, on peut se regrouper. Enfin, là, il y a des choses, il y a des pistes et des solutions.
Alors, le Ravi, comme je le disais tout à l'heure, il est connu et reconnu pour ses enquêtes, pour ses reportages, pour ses analyses. Michel Guéroux, à l'ère de Twitter et de ses 140 signes, le zapping, la brièveté, c'est pas aller à contre-courant que de faire de très longues enquêtes, des trop longs reportages parfois ?
Non, c'est... je ne crois pas. Et précisément, à la limite, tout au contraire. C'est-à-dire qu'on est effectivement, et on a senti ce mouvement, cette accélération depuis 10 ans, depuis qu'on existe, dans une société où tout s'accélère, tout va vite, mais surtout où on communique beaucoup plus qu'on informe. Et le journalisme se dilue dans tout ça. La question dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la propriété, le fait que ce soit les mêmes qui appartiennent, qui possèdent les journaux et que ces journaux-là soient très dépendants de la publicité, fait qu'il y a une uniformisation des contenus, une standardisation, on va vers des formes d'autant plus courtes. La presse écrite se met au rythme de la radio qui est déjà au rythme de la télé. Et défendre le journalisme, défendre l'information et continuer à penser que l'écrit et l'écrit imprimé a du sens, nécessite au contraire de plus en plus d'aller sur des formats, alors peut-être pas, c'est pas des romans, mais des formats longs, d'assumer ça, et un regard décalé. C'est une formule que j'utilise souvent, enfin qu'on a souvent utilisé dans leur avis, mais nous on veut quitter les autoroutes de l'information, on veut prendre des chemins de traverse, donc sur lesquels ça tourne, on va et on montre et on raconte des histoires qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas le temps de voir ou d'entendre ou de lire, d'écouter ailleurs.
Est-ce qu'il y a une érosion de l'électorat du Ravi depuis 11 ans ?
Non. Et alors bon, j'ai donné nos chiffres, ils sont modestes, mais sur l'année écoulée, on a progressé de 50% en kiosque et de 20% en abonnement. Donc on a titré ça il y a un mois en disant mourir guéri, c'est la question qu'on pose, mais c'est vrai qu'on est sur la bonne pente et c'est un des indicateurs qui fait, et là on le sent là depuis que les gens, qui fait qu'on a envie de continuer, on sent depuis qu'on a annoncé la cessation de paiement, à nouveau ben, les gens s'abonnent, les gens font des petits dons.
On a réussi aussi aujourd'hui à faire le portrait type du lecteur du Ravi.
On avait fait ça il y a 8 ans, enfin, on avait tenté d'envoyer un questionnaire à nos abonnés qui étaient beaucoup moins nombreux mais non, on a pas fait ça, justement, on ne travaille pas comme ça. Ce qu'on avait constaté déjà à l'époque, je ne sais pas si ça se confirme aujourd'hui, c'est qu'on avait un lectorat assez classique, à savoir un noyau 41 ans et plus, qui sont les lecteurs de presse et ceux qui payent pour lire de la presse. Mais on avait aussi des trentenaires, c'est-à-dire pour la presse, des très jeunes, sachant que les 15-25 ans n'achètent quasiment plus de journaux et en particulier d'informations générales. Voilà. Donc on a peut-être un lectorat un peu plus jeune que celui de la... probablement beaucoup plus que la PQR, puisqu'on sait que la PQR a un lectorat qui vieillit beaucoup.
Donc, on parle de couleur politique, forcément, quand on pense à lecteur et à journal. C'est plutôt un journal pas d'extrême droite, ça c'est clair.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a une couleur politique clairement notée sur leur avis ?
Enfin... La question. En fait, nous, on ne se définit pas comme un journal d'opinion, on se définit au singulier, on se définit comme un journal d'opinion au pluriel. C'est-à-dire qu'on pense que le journaliste objectif, le journaliste dans sa tour d'ivoire qui parle dans une de ses ou sans son point de vue, etc., c'est de la rigolade. C'est-à-dire qu'on a effectivement des partis pris. On s'intéresse beaucoup aux questions d'écologie, beaucoup aux questions sociales, beaucoup... voilà, par exemple, quand j'ai dit ça, déjà, on sent peut-être qu'on n'est pas, certainement pas l'extrême droite de l'échiquier politique et peut-être pas très conservateur comme journal. Après, ça, c'est dans l'ADN de cette rédaction et de son indépendance. On est lié à aucune organisation politique ou syndicale. Et c'est aussi une des raisons, peut-être, du temps qu'on a mis à constituer notre noyau dur et du fait qu'on ne progresse pas forcément très rapidement, c'est qu'on n'achète pas leur avis comme un journal miroir, c'est-à-dire pour dire « Oh, j'appartiens à une famille et je suis content de m'y voir dedans. » Je sais pas, moi, un journal spécialisé sur les luttes environnementales, et j'achète ça, j'en suis, ou le journal des luttes sociales, etc. On achète un journal, le Ravi, pour s'informer, pour être aussi un peu secoué, c'est-à-dire que même sur des sujets ou sur des partis pris ou des réseaux, on régulièrement, on a énervé des gens qu'on aurait pu imaginer... être des cœurs de cible, comme on dit dans le langage commercial. Récemment, par exemple, on a fait une chronique satirique sur l'association Vélo en Ville, alors qu'on est très attaché, nous, aux déplacements doux, à ces problématiques-là. On les a emplâtrés et ça n'a pas plu. Et c'est ça le ravi aussi, c'est son charme.
Est-ce que finalement cette identification un petit peu floue, c'est pas ce qui cause des problèmes aujourd'hui vis-à-vis des institutions? On a toujours du mal à financer un objet non identifié, clairement identifié en tout cas.
Peut-être, mais alors là c'est leur problème et c'est dommage pour ces institutions-là. Ça dit quelque chose de ces institutions qui n'est pas très flatteur pour elles, parce qu'en même temps, et c'est ce qui fait notre crédibilité aussi, c'est-à-dire que cette émission aussi qu'on anime, la Grande Chatte, enfin des gens de gauche, de droite, ils viennent. Et si l'extrême droite n'y est jamais venue, c'est parce qu'on n'y a pas invité. Et si on prend l'extrême droite, même alors que c'est eux, clairement, enfin là on a marqué une ligne, et le Ravi ne cache pas son antipathie pour ce mouvement-là, mais en même temps fait un travail journalistique. Et rencontre forcément des élus, il les fait parler, les interviews. Et on a été effectivement, il y a 2 mois, censuré par Marion Maréchal Le Pen lors d'une conférence de presse. Même ça est désapprouvé par d'autres élus d'extrême droite. Et pourquoi ? Parce que finalement, même si ça râle, même si ça grogne, même si ça crie, les élus savent qu'on est des journalistes qui enquêtent et qui, s'ils écrivent une phrase, c'est qu'elle est vérifiée. Ça nous arrive de nous tromper, mais on le reconnaît. Donc ça assoit aussi notre crédibilité.
La difficulté, par exemple, d'avoir certains élus comme Jean-Claude Gaudin, alors... Parce qu'on n'est pas franchement de gauche à ce numéro, mais on n'est pas non plus de droite dans le prochain.
Mais ça dit aussi quelque chose qui décrit la réalité d'une situation locale et qui fait pour nous notre motivation à faire vivre un espace de presse comme le nôtre. C'est-à-dire qu'on est dans... Il y a un problème, et ça c'est un des objets centrales du Ravi, c'est la question de la démocratie locale. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là pour nous qu'il y a vraiment un manque. Ça respire mal, ça circule mal. Et ces barons, la politique, effectivement, ils ont besoin de coller une étiquette sur la tête de chaque personne, client, pas client, ami, pas ami. Et ça vaut pour la presse, et ça vaut pour les associations, ça vaut pour les acteurs culturels, ça vaut pour tout le monde. Et effectivement, quand on joue pas la règle du jeu, ben on nous met en marge du jeu.
Alors, une des questions que peuvent se poser les auditeurs et les lecteurs du Ravi, c'est finalement ce journal a des difficultés inélu que par 2000 personnes. Il y a un petit peu
non.
de soupoudre.
Là, je suis désolé, il est vendu. Il est lu par 50 000, au moins 50 000 personnes.
Il y a comme une espèce de saupoudrage sur les 6 départements de la région. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus se recentrer sur la ville capitale, en l'occurrence Marseille et les Bouches-du-Rhône?
On s'est posé ces questions 100 fois. Alors c'est vrai que se recentrer sur Marseille par exemple, ça aurait l'avantage de concentrer nos petites forces sur une zone plus resserrée, peut-être plus efficace, plus mordant. On va se reposer ces questions. Mais notre conception du local, c'est pas le clocher. Et on pense que même si on prend que Marseille, effectivement, aujourd'hui, on est dans une logique de métropole, voire même au-delà. Et la Provence, ça veut dire quelque chose, et pas uniquement parce que c'est le centon, même si c'est notre symbole, ça veut dire quelque chose parce qu'il y a des flux économiques, il y a des enjeux environnementaux, il y a des questions de transport, il y a des questions de pouvoir, il y a de l'argent, il y a des gens qui vivent d'un côté, qui travaillent de l'autre. Tout ça a du sens. Donc, recentrer peut-être un peu, effectivement, on l'a déjà fait sans trop le dire, mais par exemple, on n'est plus diffusé chez les marchands de journaux dans les Alpes-Maritimes, même si on a toujours un noyau d'acteurs dans le 06. Mais voilà, mais après, la Provence, ça veut dire quelque chose. Par exemple, je crois que ça serait difficile de réduire de plus que ça.
Alors, quand on parle finalement de réduction, on pense forcément à distribution. La distribution dans les journaux, c'est une vraie crise, avec Presalis, qui est l'ex-NMPP, qui refuse clairement de distribuer tout ce qui n'est plus rentable, quoi. Donc... Finalement, en restant sur 5 départements, est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus de mal à être distribué et donc à être visible et donc à être acheté, in fine, par le lecteur?
C'est pas sûr. Enfin, il y a eu beaucoup de projets de presse, y compris parfois beaucoup plus, avec des capitaux beaucoup plus élevés que le nôtre sur Marseille, qui sont cassés la figure et pourtant beaucoup plus marketés aussi. Il y a eu une expérience récemment coopérative avec plein de qualités, quelques défauts, peu de moyens. C'était V Marseille, ils se sont cassés la figure. C'est compliqué. Ce qu'il faut dire par contre, et là, dans la période qui est la nôtre, c'est capital. C'est le kiosque. Nous, on a toujours envie d'y être parce que c'est une existence, c'est des possibles, mais c'est un puissant fond, c'est-à-dire que c'est une énergie pour y arriver à y être vu, à être diffusé proprement. Enfin, il faut avoir des moyens énormes. Auditeurs de Grenouille et tous les autres, sachez que Enfin, il faut s'abonner à ce genre de projet, c'est-à-dire que sinon, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que la bataille qu'on n'a peut-être pas su assez mener assez fortement, c'est ça là, et c'est là-dessus que ça va se jouer. Hein. C'est-à-dire que y a ce modèle sans arrêt là qui est souvent mis en avant de la MAP, là, ces principes. Il ne faut pas que les petits paysans disparaissent, donc il faut devenir coopérateur, préacheter une récolte pour pouvoir manger quelque chose de qualité. Pour la presse, pas pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on veut que cette presse-là existe, eh ben, il faut dire ben, au moins pendant un an, je vous fais confiance, 35 euros, c'est à peine un plein d'essence, enfin un peu plus.
Un peu moins,
ça dépend quelle voiture on a. Et,
35 euros si
on remplit le réservoir à moitié. Mais
on voit tout de suite la personne qui roule en vélo.
Ouais, tout à fait.
Tout à l'heure, on parlait, Michel Guéraud, de régie pour la publicité. Le problème de la distribution, c'est un vrai problème. Et là aussi, le Ravi semble avoir trouvé une alternative avec un réseau alternatif de distribution, c'est ça? Il y a même une rubrique qui rend hommage à ceux qui leur distribuent.
Honnêtement, là aussi, on a essayé, on a mis pas mal d'énergie. Et c'est vrai que c'est qualitatif, c'est-à-dire qu'on est dans certaines librairies, dans certains bistrots, etc. Et c'est bien parce qu'on touche des gens, on rencontre des gens. Mais c'est une logistique énorme pour des effets en termes de diffusion réduits. Non, encore une fois, la solution pour nous donner de la force et pour qu'on puisse repartir très fort, c'est l'abonnement.
L'abonnement. Michel Guéraud, on arrive presque au terme de l'émission. Je vais évoquer différentes phrases et vous allez me dire rapidement, de manière très très courte, ce qu'elles évoquent pour vous. Alors, pour un journal indépendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement. Quand on est lecteur et quand on veut s'investir.
S'abonner, le financer.
Pour une presse qui enquête.
Pour une presse qui enquête, pour une presse qui enquête, il faut assumer en fait il faut du temps, voilà. Il faut du temps, donc un peu d'argent. Je suis désolé, je suis peut-être un petit omnibulé. C'est le moment. Hein. Donc un peu de temps, un peu d'argent, et effectivement, il faut avoir les mains libres.
Pour un mensuel de proximité.
Là, nous, c'est l'idée de circuit court, c'est-à-dire qu'on veut. On veut faire ce travail d'informateur, d'enquêteur à cette échelle-là, locale, parce qu'on pense que c'est là où il y a le plus de besoins.
Lanceur d'alerte même, on peut dire ça?
Lanceur d'alerte, alors là, oui, bien sûr, parce qu'il y a matière. On parlait du clientélisme, de la corruption, on parle de la montée de l'extrême droite. On est la région où il y a le plus de mairies FN, on le sait.
Alors, un journal pas pareil, ça veut dire aussi une hiérarchie de l'info un petit peu différente. C'est ce que le lecteur peut trouver dans le Ravi?
Ben complètement. Hein. Je parlais de Nice ce matin. On connaît le principe fait divers, sport. On peut aimer le sport. Bon, les faits divers, un peu moins. Voilà, ça fait partie. C'est le début, c'est le commencement. Hein. C'est-à-dire être capable de mettre en une des sujets. Des fois, tout à l'heure, Sébastien parlait du journal rigolo chiant, mais des sujets qui sont censés ne pas être vendeurs, ou qui pas très fédérateurs, ou qui divisent, mais qui sont utiles à aborder.
Alors un média, le mot, on le met un petit peu à toutes les sauces. Parlons-en, un média citoyen, ça veut dire quoi concrètement?
Nous, on met derrière ça...
Parce qu'après tout, Michel Guéraud, ouais. Le lecteur ou l'auditeur peut dire la Provence est un média citoyen comme un autre, puisqu'elle me donne les nouvelles sur le rond-point, sur les embouteillages, sur la fermeture de telle ou telle administration. Ça aussi, c'est un acte
citoyen. Oui, c'est de l'info-service. Bien sûr que ça rend service. Ça, je ne le conteste pas. Non, nous, derrière, on va un peu plus loin. C'est-à-dire, c'est cette idée... De faire émerger une expertise différente. Les journalistes, ils ont une responsabilité dans les problèmes qui leur arrivent. Se citent entre eux, donnent toujours la parole aux mêmes experts, parlent des mêmes sujets au même moment, vont dans certains quartiers, par exemple, uniquement quand ça chauffe, parlent des sans-domicile quand il fait froid et pas le reste du temps. Et donc, le fait, nous, d'aller, de faire ce travail-là, de nous frotter, de sortir de derrière nos ordinateurs et d'aller faire des projets de journalisme participatif, d'essayer de faire écrire, d'expliquer qu'est-ce que notre profession et de faire partager certaines techniques à ces gens.
Aujourd'hui, les ateliers, tout ça, ça représente combien en pourcentage dans l'horaire et dans le travail fourni au Ravi?
Je pense que c'est pas loin d'être la moitié de l'effort. Hein. Voilà. Mais encore une fois, ça s'imbrique parce que c'est, ça, ça, ça devient, quand on parle par exemple des questions d'aménagement des quartiers, de la concertation ou plutôt l'absence de concertation sur les projets d'aménagement, on est déjà dans l'enquête.
Alors tout à l'heure vous disiez on va prendre des chemins de traverse, c'est ce que le Ravi a l'habitude de prendre. Il y a un mouvement qui démarre, qui a démarré, qui est allemand je crois, c'est ce qu'on appelle le slow media. Est-ce que le Ravi s'inscrit dans cette démarche-là?
Oui, dans la mesure où effectivement... Il faut arrêter de se laisser porter par l'écume de la communication et de se laisser manipuler par tous ces communicants et voilà, faire une pause, réfléchir, prendre le temps de lire, prendre le temps d'enquêter, d'écrire.
Alors le Ravi, comme je le disais, régional en PACA, il y a au moins 3 départements qui ont une façade maritime. Et paradoxalement, dans la presse, on parle rarement de la Méditerranée. Est-ce que c'est un projet qu'a le Ravi ?
Oui, ça fait partie des projets. On a répondu à un appel à projet pour ne rien cacher de la région sur les médias citoyens. Qui était très opportun parce que ça fait un moment que nous, ce qu'on a fait à l'échelle régionale et qu'on a déployé à l'échelle nationale, c'est-à-dire cette espèce de recensement des médias pas pareils, des médias comme les nôtres, dans l'idée de se fédérer pour mieux s'entendre entre nous, de façon à mieux nous faire entendre et peser et trouver des logiques et des appuis économiques, on pense qu'il faut aussi regarder des deux côtés de la rive méditerranéenne et faire ce répertoire-là. On pense bien comme d'autres, à la Tunisie, à ce qui s'est passé, aux enjeux politiques et démocratiques et à l'émergence d'une presse, c'est difficile, hein, aussi citoyenne. Et aussi, on revient à la question qui est très liée à la PACA de l'extrême droite et d'un climat là, de fermeture, c'est-à-dire qu'on veut fermer les portes à double tour. Nous, on a envie d'ouvrir les fenêtres et de dire que... l'immigration et les Français qui ont un rapport dans leur histoire avec l'immigration ne sont pas un problème, mais une partie des solutions.
Alors Michel Guéraud, 11 ans que le journal existe, 11 ans à se frotter aux élus locaux dans une région où il y a certaines singularités, on va dire, on ne fait pas de la politique de la même manière en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'en Aquitaine, par exemple. Forcément, ça entraîne des procès. Il y en a eu quelques-uns, au Ravi.
On en a eu, mais pas tant que ça. Alors, soit ça veut dire qu'on n'a pas été assez méchant. Alors, on va l'être plus. Abonnez-vous et on vous le promet, on aura plein de procès. On les a gagnés aux 3/4. Il y en a un qu'on a perdu pour l'euro symbolique, mais on avait raison sur le fond.
Ce qu'il faut dire aux éditeurs, c'est que ceux qui font des procès au Ravi ne viennent pas du fin fond de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le dernier en date, c'est le maire d'Istres.
Oui, c'est ça, un maire d'hiver gauche, Bernardini, qui avait précédé Jean-Noël Guérini à la tête de l'institution Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Il était socialiste à l'époque. Oui, donc il ne faut pas aller très loin. Hein.
on arrive même au terme de cette émission, Michel Guéraud. Je vous laisse la parole jusqu'à la fin de l'émission pour parler aux auditeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce journal vive une minute.
Une minute, j'ai été vachement lourd, mais il faut s'abonner. Et puis, je voudrais dire aux auditeurs en fait, que notre pari, là, il était impossible à tenir depuis 11 ans. Ce qu'on veut réussir dans les 6 mois ou dans l'année à venir est aussi totalement impossible. Ce n'est pas raisonnable, ça ne l'est pas du tout. Et c'est pour cette raison, précisément, que j'invite les auditeurs à se mobiliser, à y croire, à nous aider à franchir l'obstacle. Et qu'on est dans un sale moment, un moment de découragement, de défaite, les choses défont, il y a des associations qui cassent la figure. On est plutôt en position de repli qu'en position offensive et que allez, on peut y arriver et qu'on est en se regroupant, on a une force mais considérable qu'on n'imagine même pas et je veux croire, pourquoi pas, enfin pourquoi pas 5 000 abonnés au Ravi dans 6 mois, enfin il y a 5 millions ou 6 millions d'habitants, je ne sais plus, dans la région
5,
c'est ça. entre les deux, j'ai presque gagné, enfin 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, enfin tout ça est extrêmement raisonnable. Il va y avoir plein de rendez-vous si on passe un par un les obstacles administratifs, judiciaires, etc. Et là, on vient d'en franchir un et on a l'intention de franchir les suivants. On va donner des rendez-vous, il va y avoir peut-être des concerts de soutien, il va y avoir des débats publics. il va y avoir des campagnes, il va y avoir des dessins, etc. Suivez-nous. Si vous nous suivez, on va trouver les solutions, on va secouer tout le monde, on va se secouer nous-mêmes, on va essayer de faire mieux. On pense que c'est possible. Si vous ne faites pas de signes, ben on ira faire autre chose, il n'y a pas de souci. Mais on est là, on est prêt à répondre à vos attentes et à votre attente.
Alors concrètement, abonnez-vous au Ravi, achetez-le si vous le trouvez dans les kiosques, sinon dans de nombreuses librairies, sinon dans les rubriques du Ravi à l'intérieur, vous allez voir tous les points de distribution. Il y a également un site internet, très très important le site internet, puisque vous pouvez vous abonner en ligne pour une somme qui est relativement dérisoire, puisqu'elle est 35 euros l'année. Michel Guéraud, mille merci, et on se retrouve, voilà, si tout va bien, le mois prochain.
Au même micro, mais pas à la même position.
Bye.